de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire, dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle d'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue. Cinérama, c'est une demi-heure pour parler cinéma au travers de films qui sont dans les salles. Parfois nous avons des blind tests, parfois nous avons des interviews. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, on va commencer par toi, Guillaume, puisque tu as deux films.
Oui, alors j'ai un film d'horreur chrétien qui s'appelle Nefarious et ensuite un documentaire qui s'appelle Rupestre.
Et puis toi, Manu, tu vois un film qui a l'air, sur le papier, un peu idiot.
Un peu idiot, mais marrant, c'est Novocaïne.
Et puis, alors, toi, c'est un film de sabre, Sophia.
Oui, un film de samouraï, même. On va parler du joueur de Go.
Et puis moi je vous parlerai de Blanche-Neige et de Electric State. Alors pourquoi? Parce que ce sont deux films qui ont coûté très cher et qui sont pour la famille les deux, mais qui ne sont pas forcément eh bien, très réussis. Mais nous commençons avec un homme qui transforme son incapacité à ressentir la douleur en une force inattendue dans son combat pour retrouver la fille qu'il aime, Novocaine.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Alors dis-moi, c'est quoi ton truc?
Mon truc? Je suis un mec normal, avec un boulot normal. Mais j'ai cette maladie qui fait que je sens pas la douleur.
Alors Dan Berk et Robert Olsen, tous deux réalisateurs, hein, remarqués pour quelques productions horrifiques très sympathiques, hein, je pense à The Villains, directement distribué sur les plateformes, sortent de l'anonymat avec Novocaïne, hein, néo-série B nanti d'un budget plus confortable que d'habitude. Hein. Alors Jack Quaid, le héros masochiste de la série The Boys, incarne donc Nate, un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire qui a pour caractéristique d'être insensible à la douleur en raison d'une maladie génétique. Alors plutôt que d'en appréhender les effets positifs, il a cultivé une peur déraisonnée de son environnement, une prudence l'empêchant de vivre comme les autres. Alors pour donner un exemple, hein, ce pauvre gars craint de manger certains aliments pour ne pas s'arracher la langue par inadvertance. Alors ça pourrait effectivement arriver. Hein. Le jour donc où une employée de banque dont il est amoureux est prise en otage par des braqueurs, il passe enfin à l'acte, manière de prouver son entière dévotion à la femme qu'il aime, ce qui ne lui est jamais arrivé auparavant. Il fonce droit dans la gueule du loup pour sauver la belle. Et comme il ne ressent rien physiquement, vous pouvez imaginer la suite.
T'es un super-héros?
Non.
Et ça, tu le sens ou pas?
Je le sens carrément bien. C'était une nuit magique. Oh, oh, oh!
Alors tout comme Hypertension 1 et 2, modèles évidents, hein, vous voyez un peu le niveau, hein, Novocaïne est un thriller à concept qui part d'une idée imparable pour la dérouler sur 1h30 d'action non-stop une fois la machine lancée. Hein, une BD live pleine de bruit et de fureur où le sang gicle, les corps se fracassent, la peau se brûle, au troisième degré évidemment, et les os se brisent. Le film a quand même la bonne idée de démarrer en douceur le temps de présenter les deux tourtereaux, de leur donner un peu de consistance avant de lâcher la bride. La mise en place permet ainsi de s'attacher au personnage, ce qui n'est pas rien pour un film bourrin, généralement peu attentif à ce genre de détails. Alors passez ce semblant de subtilité, ne cherchez pas midi à 14h, c'est con comme la lune. Le scénario mélange on va dire entre de la naïveté assumée et puis de cynisme contemporain, tient sur un timbre-poste et accumule des invraisemblances aussi grossières qu'assumées. En effet, Sinat est insensible au coup, il passe en dépit du bon sens du gentil et timide monsieur tout le monde avec son costume trois pièces étriqué à une sorte de super-héros invulnérable. Alors de quoi perturber votre suspension d'incrédulité. Alors mais au fond, peu importe, hein, pourvu qu'on ait l'ivresse, si les esprits les plus cartésiens pourront s'agacer devant les exploits de Nat, les fans de films d'action azimutés et décomplexés seront aux anges devant cette série B gentiment déviante, à la limite du pastiche, hein, qui s'autorise des saillies trash singulières. Hein. Alors les incursions gore, souvent gratuites, apportent une trivialité bienvenue à ce divertissement totalement décomplexé qui procure un plaisir aussi immédiat qu'éphémère. La séquence par exemple où Nat s'introduit chez un survivaliste qui a truffé sa baraque de pièges mortels est un grand moment de burlesque on va dire très sanglant. Dommage que tout ne soit pas du même niveau car les réalisateurs n'exploitent pas toujours à fond leur idée jubilatoire.
Pourquoi t'appelles pas la police?
Les flics me croient dans le coup.
Homicide, vol de voiture.
Imagine que toute ta vie t'ait attendu la personne. Celle qui te donne enfin envie d'y croire. T'attendrais qu'un autre aille la sauver? Ou tu le ferais toi-même?
Novocaïne? Non, c'est toi? On te croyait mort depuis longtemps.
Bah non.
Hé, hey, les mecs, c'est Novocaïne! Et il est pas mort, putain!
Alors, Novocaïne hein, ne restera pas dans les mémoires, mais se situe dans l'eau du panier des films de genre actuels. Le couple, donc Jack Quaid et Amber Mist Thunder, fonctionne à merveille. Hein. Gentiment sexy comme il faut. Hein. Les antagonistes débilos, eux, manquent de charisme. Figures fonctionnelles qui sont utilisées juste pour tester les limites du héros malgré lui. Alors, la mise en scène énergique ne démérite pas. Elle se situe dans la lignée des premiers films de Mark Neveldine et Brian Taylor. Hein, les réalisateurs d'Hypertension, hein, ces grands films subtils. À y regarder de près. Alors, je suis sûr que cette mise en scène est truffée de faux raccords et d'incohérences formelles, mais le rythme frénétique servi par un montage nerveux crée l'illusion d'assister à une réalisation virtuose là où elle n'est qu'efficace, mais ce qui est déjà pas mal. Alors voilà, Novocaïne, ça ne révolutionne rien, mais en l'état, c'est un produit, moi, je dirais, généreux et bien emballé, tout à fait divertissant, un samedi soir, un dimanche soir, et quand on est fatigué, ça fait le job.
Voilà. Oh, mais tu l'as super voilà. Vendu.
Surtout que je voulais juste dire qu'il y a une raison pour laquelle il s'appelle Novocaïne, mais elle est totalement idiote, c'est parce qu'on l'appelait comme ça au collège.
D'accord.
Voilà.
Oui,
mais on n'explique pas plus. Ça n'a aucun intérêt.
Mais à la base, c'est bien le nom d'une molécule.
Oui, je crois. Oui.
Mais qui a un lien avec la douleur.
Voilà, mais je crois que c'est ça, ouais.
Oui. Bon. En tout cas, Novocaïne, ce film est sur de nombreux écrans depuis le 26 mars. Parlons de films aussi. Alors, il y en a un qui n'est pas sur les écrans, mais l'autre est sur beaucoup d'écrans. Nous parlons des blockbusters qui ont coûté plusieurs centaines de millions d'euros.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
300 millions de dollars plus 270 millions, ça fait 570 millions de dollars pour deux films censés rassembler les familles. Pour l'un, Blanche-Neige de Disney, il faut aller en salle. Pour l'autre, de Electric State, il faut son abonnement à Netflix ou des codes. Mais pour les deux, finalement, eh bien, si on trouve mieux à faire, autant foncer. Alors, commençons par le film qui a battu un record, de Electric State. Alors, vous connaissez le record qu'il a battu?
Oui, c'est le film le plus cher de produit par Netflix, je crois.
Oui,
alors, Netflix
c'est
maison, hein, c'est-à-dire pas oui. Netflix qui rachète un film, mais Netflix qui le produit lui-même.
Bien sûr, son argent à lui, voilà, qu'il sort pour faire une production, effectivement. Donc, c'est la plus grosse production jamais produite par Netflix. La débauche d'argent se voit à l'écran. Alors ça, déjà, c'est rassurant. Mais c'est bien la seule chose qui est à mettre au crédit du film tourné par les frères Russo qui ont la main sur la franchise Avenger. Alors, le scénario est particulièrement indigent. Il s'agit de l'adaptation du roman graphique Tales from the Loop. Une jeune fille, Millie Bobby Brown, qu'on a vue dans The Stranger Things, la série, reçoit la vie d'un robot sympathique qui s'avère être investi par l'esprit de son petit frère qu'elle pensait mort dans un accident de voiture. Mais en fait, celui-ci est exploité par la firme qui a permis de mettre une pâtée aux robots qui voulaient leur liberté quelques années plus tôt. Chose étrange, c'est l'esprit de ce jeune garçon qui vaut au moins D. Einstein, hein, qui permet de faire fonctionner un vaste réseau de connexions interhumains. Mais on n'aura pas les détails de cet étrange argument scénaristique. Hein. Ça, j'avoue que je suis tombé complètement à côté de l'explication. Alors, dans sa quête, cette jeune fille est aidée par un voyou qui a comme meilleur ami un robot, autant dire que la réflexion n'est pas très poussé. Si on passe le côté sympathique des images avec des robots qui ont des drôles d'allure, hein, comme leur leader, Monsieur Peanuts, qui a donc une forme de cacahuète, on est frappé par l'invraisemblance de ce monde où justement les robots ne sont pas crédibles, ni dans leur look, ni dans leur attitude. On peut être aussi interloqué par l'aspect bien trop anthropomorphique que des boîtes de métal. Mais bon, qui dit public familial dit large cible et argument facile. Malheureusement, le film porte son lot de poncifs moraux sur l'entente et le respect qu'il devrait y avoir entre humains et robots. Et à la manière de Chaplin dans Le Dictateur, le personnage de Millie Bobby Brown s'adresse à toute la planète avec des idées tellement creuses qu'elles sont vraiment, mais vraiment risibles. Ne reste qu'un vague plaisir visuel et puis de belles idées qui ne sont pas du tout exploitées. Notamment, les humains ont la capacité, en restant chez eux avec un casque virtuel, de piloter un double robotique. Alors, ça pourrait donner la source d'un scénario solide, d'un très bon film, me semble-t-il, mais c'est pas du tout exploité. Tu l'as vu, Manu, tu peux peut-être en dire quelques mots, parce qu'on a le temps.
C'est vraiment un film pour enfants. Enfin, moi, je dirais même qu'une fois que tu rentres en CE2, le film est caduque, en fait. Il n'existe plus. Hein. Enfin, on est vraiment dans un niveau de simplisme qui est ahurissant. Et puis, l'univers n'est absolument pas exploité, ni cohérent. Enfin,
c'est vrai que c'est pas du tout crédible. Alors, c'est effectivement pas très premier degré. Il y a des films sur les robots, même The Creator, qu'on peut juger, que moi, j'avais pour le coup apprécié, parce qu'ils nous proposaient proposer un monde vraiment avec des robots et puis il y avait quelque chose de politique derrière. Enfin, puis on s'interrogeait sur ce que pourrait être l'intelligence artificielle, ce que pourrait donner effectivement une bataille entre les humains et les robots. Ça, c'est un très vieux scénario de la science-fiction. Et là, c'est pas du tout exploité. Tout est gentil, quoi.
Bah non, mais c'est un peu la foire aux robots. On a l'impression qu'ils ont juste fait ça. Ils ont juste fait le film pour montrer une variété de robots un peu à l'ancienne, un peu vintage, moi je pense à des
Wall-E
films,
ou je ne sais
ouais,
quoi,
même avant mais... des films des années 50 hein, dans Planète Interdite hein. Voilà, sinon je vois pas du tout l'intérêt du film.
Moi, c'est surtout que tu parles de The Creator. The Creator, avec ses qualités et défauts, a coûté 80 millions, en fait.
Ah, je pensais qu'il avait coûté plus.
Ben, parce que le réalisateur a su travailler son visuel. Moi, je pense qu'un film comme The Electric State, pour ce que j'en ai vu, c'est pas du détournement de fonds, mais du blanchiment d'argent. On peut pas revendiquer un tel budget pour un tel rendu, en fait. Là, je pense vraiment qu'on a une dérive de l'industrie qui nous est montrée de plein fouet, à voir si les spectateurs auront envie de fréquenter. Je crois que les chiffres sont pas forcément ce que Netflix attendait.
Non, ils sont vraiment pas bons. C'est un mauvais démarrage, effectivement, sur l'ensemble des films qu'ils ont produits ces dernières années.
Donc, en morale, je pense qu'il vaut mieux revoir AI, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg, que de voir Electric State.
Alors, le problème, c'est que ça pourrait faire reculer aussi la production de films de science-fiction si les spectateurs ne mordent pas. Mais en même temps, s'ils les ratent, ces films, voilà, c'est le problème.
Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure?
Ma reine, tu es... d'une beauté sans pareille. Mais il y a une personne dont la beauté rayonne de l'intérieur.
Pour Blanche-Neige, le problème est ailleurs. Concernant le scénario, eh bien, il est tributaire de l'histoire d'origine du conte de Grimm. Hein. Toutefois, évolution des mœurs oblige Disney à évacuer Mon prince viendra pour faire de ce baiser un vrai baiser d'amour entre deux êtres qui ont eu le temps de se parler, d'éprouver eh bien, une ébauche de sentiments. Alors, c'est plutôt une sage décision. Le studio américain a choisi également de placer en Blanche-Neige l'américaine d'origine polonaise et colombienne Rachel Zegler. Ça a réveillé eh bien, tous les haineux internautes qui ont trouvé sa peau pas assez blanche. Voilà, donc Disney a dû expliquer comment était né le sobriquet Blanche-Neige.
En l'honneur de la nuit de ma naissance, mon père me nomma Blanche-Neige.
Voilà, elle est née en plein hiver, il y avait beaucoup de neige, voilà, donc Blanche-Neige, voilà. Bon, c'était simple, mais voilà, il fallait quand même le faire, voilà. Dans le rôle de la méchante reine, la toujours impressionnante Gal Gadot, qui est ce qu'il faut de cruel et d'excessif, donnant le change à la bonté et bienveillance dont fait preuve Blanche-Neige, la princesse reléguée au rang de boniche. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur le déroulement de l'histoire qui voit les plans de la méchante reine tomber à plat. Côté mise en scène et mise en image, là, c'est vraiment autre chose. Le recours aux effets spéciaux est criant pour une version live-action. Cela va jusqu'au nain de synthèse, alors qu'il y en a de véritables parmi les rebelles, interprétés par Peter Dinklage, celui qu'on voit dans Game of Thrones. Et donc l'arrivée dans la forêt terrifiante manque de contenu et l'aspect magique avec ces animaux soucieux d'aider les humains est d'une naïveté vraiment confondante. Le film s'ouvre avec un hérisson qui se met en boule et se termine avec un petit clin d'œil de ce même hérisson. Voilà, c'est presque résumé, hein, ce Blanche-Neige, où rien ne semble dépassé, tout est trop joli et aucune chanson ne sera vraiment retenue, alors que les Disney ont tout de même parfois cette force motrice hein, de faire durer le plaisir avec de véritables tubes. Voilà. Alors, difficile de féliciter Mark Webb, celui qui est quand même derrière les derniers Spider-Man, mais ce qui est certain, c'est qu'il est plus à l'aise avec les hommes araignées qu'avec les princesses un peu aseptisées. Donc, ce Blanche-Neige pour les enfants, avant tout, évidemment, mais aussi pour les familles, puisque les parents accompagnent les enfants, est en salle actuellement.
Alors, je ne l'ai pas vu, mais il paraît que ce ne sont plus des nains, mais des créatures magiques dans le film.
Alors, ben oui, mais pourtant, à l'évidence, ce sont des hommes de petite taille, on va dire.
Oui, voilà. Mais ils ne les appellent plus nains, ça devient des créatures magiques. Ouais. Ce qui en dit un petit peu long de l'hypocrisie de Disney, quoi.
Oui, oui.
Comme si nains, c'était une problématique, en fait.
Ils avaient tellement de polémiques, ils ont essayé d'arrondir les angles, mais à tout bout de champ, et voilà, bon, ça donne un produit assez, assez curieux. Blanche-Neige, donc, est en salle déjà depuis quelques temps. Des auteurs de BD transformés en artistes de la préhistoire. Nous parlons maintenant de rupestre.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
En 2015, Marc Azéma publie un livre accompagné d'un documentaire réalisé par ses soins intitulé donc d'un côté La préhistoire du cinéma et Quand Homo sapiens faisait son cinéma. Alors il y revenait sur la faculté qu'a l'homme de vouloir rêver en images depuis ses origines et son lent développement des outils, puis de la maîtrise de l'environnement pour y parvenir. Alors l'image, comme il est dit dans La préhistoire du cinéma, est à la base de la communication, elle favorise la transmission des savoirs, de la culture et ce, bien avant l'écriture. Alors s'il fascinait par la manière dont Marc Azéma arrivait à démontrer que les techniques cinématographiques ont toujours été présentes et que l'archéologie du cinéma est bien plus ancienne qu'on ne le croit, ben, il n'en oubliait pas pour autant un autre art, celui de la bande dessinée, une autre de ses passions, qui est aujourd'hui entièrement à l'honneur en raison des personnalités conviées dans son dernier film documentaire, Rupestre.
On dessine sur du papier, dans le confort de notre atelier, et là on se retrouve avec des pigments, avec des brosses, avec du rocher, avec des surfaces complètement chaotiques.
C'est la forme qui m'a dicté le fait de faire le bras ici, parce que tu avais déjà un creux.
Alors en septembre 2022, Chloé Cruchaudet, Edmond Baudouin, Étienne Davodeau, Emmanuel Guibert, David Prudhomme, Pascal Rabaté et Troubs participent le temps d'une dizaine de jours à une expérience humaine, philosophique et artistique unique au monde, troquant, comme l'annonce l'intitulé officiel, leur table à dessin pour se retrouver dans la peau des artistes de la préhistoire. Alors ensemble, ils vont donner libre cours à leur imagination dans une petite grotte. Ils vont s'exprimer en utilisant les techniques et les gestes de leurs ancêtres paléolithiques qui ont orné la grotte du Pêche-Merle, tout près de là, donnant naissance à une création d'art pariétal contemporain brassant toute l'histoire dessinée de l'humanité. Alors on comprend que le terme film documentaire va plus lorgner sur le film réflexif intérieur et introspectif qu'un véritable documentaire scientifique en soi, Marc Azéma préférant une immersion brute et sensitive plus qu'une approche intégralement didactique sur la technique du dessin. Alors entre l'entreprise anthropologique et le happening, cet effacement des barrières temporelles amène à des réflexions passionnantes à l'heure du tout dématérialisé. Emmanuel Guibert se confesse par exemple sur ce qu'il songe à mettre à l'abri, ayant plus confiance en la paroi d'une grotte qu'un disque dur, alors que la formation cherche à s'intégrer aux parois, à épouser les contours, jouer avec les aspérités, de sorte à intégrer ses visions au décor. Ils composent avec la peinture, leur instrument, mais aussi la lumière, cet outil par ailleurs indispensable à la matérialisation des rêves soufflés par le cinématographe. Ils travaillent tout autant sur leur œuvre d'art respective que sur l'endroit où est représenter et exposer cette œuvre d'art, une médiation qui accouche d'une mise en scène formant une parfaite continuité avec les théories défendues dans la préhistoire du cinéma.
La représentation au fond des grottes, c'est que les hommes voulaient sanctuariser certaines espèces. Je me suis dit, je vais faire entrer les arbres.
Ce que nous faisons, c'est une fête dont on ignore le sens au fond.
Ça, c'est une œuvre éphémère, et puis c'est un happening, en fait, c'est quelque chose comme ça, quoi.
Alors une fête sensuelle, parce que l'acte de création devient sensuel, car les dessins ont un véritable corps naturel qui leur donne vie. Les auteurs manipulent des formes pour en faire d'autres, augmentent et complètent l'espace naturel dans une harmonie intemporelle. La grotte dicte ses règles et l'art s'y insinue. En pleine besogne, l'une des plus belles phrases du film est lâchée. Il y a évolution, mais pas forcément résolution. De même que les peintures rupestres sont des témoignages vivants et animés de la vie d'avant, les bandes dessinées de ces auteurs sont des instantanés de leur époque, soit la fin du XXe et les premiers temps du XXIe siècle. La beauté de cette entreprise et du long métrage de Marc Azéma est de mettre en lumière, que le but de l'artiste de tout temps n'est peut-être pas de faire une œuvre qui dure, mais de faire un travail bien fait.
Edmond Baudouin est notamment Rabaté à voir donc dans ce documentaire Rupestre de Marc Azéma en salle depuis le 26 mars. Un ancien samouraï adepte du jeu de Go va tout faire pour sauver son honneur. Nous parlons du joueur de Go.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama. Cinérama. Et si la vengeance ne passait pas par le sabre, mais par une simple pierre noire posée avec soin sur un plateau de bois ? Le joueur de Go est un film de samouraï singulier. Alors pas parce qu'il réinvente le genre, mais parce qu'il en respecte les codes à la lettre, tout en les déplaçant. Ici, pas de combat tonitruant à chaque coin de rue, mais un jeu de plateau millénaire, le Go, où deux adversaires placent tour à tour des pierres, noires et blanches, dans le but d'encercler l'autre. Un duel d'esprit, tout en patient, confiance et en contrôle. On est à mi-chemin entre Le jeu de la dame, série Netflix consacrée aux échecs, et les grands classiques du Shambara japonais, comme Araki de Kobayashi ou La condition de l'homme, trilogie du même Kobayashi, le tout sans la modernité brutale d'un Old Boy, film de vengeance sud-coréen extrême de Park Chan-wook en 2003, aux accents de tragédie contemporaine, mais avec la même tension morale, comment vivre avec une dette de sang. Ce joueur de Go est le premier film distribué en salle en France du cinéaste Kazuya Shiraishi qui s'essaie au drame d'époque. Dans un Japon féodal aux allures crépusculaires, Yanagida, samouraï sur le retour, vit modestement avec sa fille Okinu dans la capitale Edo. Hanté par la perte de son épouse qui s'est suicidée, il s'est retiré des affaires du monde et passe désormais des journées entre les salons de Go où il impressionne par son acuité stratégique et un quotidien sans éclat en plein empreint d'humilité. Mais son passé, comme toujours dans ce genre de récit, finit par le rattraper. Une calomnie entache son nom et pour se laver de cette fausse accusation, Yanagida doit retrouver les instigateurs de la rumeur. Une vieille trahison, un clan rival et un serment de sang oublié refont alors surface. Et alors que la tension monte, c'est sur le plateau de Go, autant que sur le terrain, qu'il devra affronter ses ennemis. Chaque partie devient un duel, chaque coup une déclaration d'intention et les frontières entre jeu et réalité s'effacent. Tourné à Kyoto, le joueur de Go s'inscrit pleinement dans la tradition du Jidaigeki, ces drames historiques japonais des années 50-70, dont l'action se situe le plus souvent à l'époque d'Edo, donc de 1600 à environ 1860. Mais il reprend plus précisément les codes du Shambara, donc le film de sabre ou de samouraï, à la manière des grandes réalisations de Kurosawa comme Les Sept Samouraïs, à Kobayashi, dont Harakiri en 62, transfigurait déjà le code de l'honneur en tragédie silencieuse. On retrouve ici cette manière de faire de l'honneur un enjeu existentiel, parfois, souvent, tragique. Avec une esthétique soignée, contemplative, le drame d'époque s'incarne dans des paysages et décors sobres, des intérieurs en bois, derrière de fins panneaux de shoji coulissants, kimonos impeccables, gestes lents codifiés, et un montage qui laisse la place au silence. Le Go structure tout le récit, chaque partie devient une joute morale où se révèle la droiture du héros Yanagida, le plateau devient champ de bataille, et là où la Beth Harmon du jeu de la dame vacille entre génie et chaos, Yanagida, lui, incarne la maîtrise, la retenue, l'intégrité. Ne jamais céder à la haine, même quand elle semble légitime, c'est là toute sa ligne de conduite, dans le jeu comme dans la vie. Cette droiture est sans cesse mise à l'épreuve, évidemment. Le dilemme qui hante le protagoniste renvoie à une autre grande thématique des récits de samouraï, la vengeance. Toute la seconde moitié du film est animée par cette quête, et pourtant, le joueur de Go mise sur une tension morale continue, où la vraie bataille se joue dans le refus de céder. Le film interroge la valeur de la justice personnelle. Faut-il se venger pour rétablir l'honneur ou faut-il accepter de le perdre pour rester digne? Une interrogation très contemporaine finalement face à des principes anciens, loyauté, honneur, honnêteté. Ce qui est sûr, c'est que le cinéaste en fait preuve dans la révérence qu'il fait au genre avec son joueur de Go.
Parfait, Sophia, t'as bien résumé. Parce que c'est vrai qu'il y a, alors moi, je suis pas très habitué à voir ce genre de film, mais ça m'a fait beaucoup de bien finalement parce que je trouve que ce sont des films totalement apaisants et, ouais. Et celui-ci l'est. Alors il y a des questions morales, donc ça c'est plutôt quelque chose que j'apprécie, enfin au cinéma, qui sont développées. Après il y a des principes que je ne comprends pas toujours, le code d'honneur notamment, je ne comprends pas pourquoi. Enfin bon, mais voilà, enfin c'est des choses qu'il faut admettre. Alors il y a autre chose qui m'a très étonné. Tu parlais des intérieurs et ainsi de suite qui étaient très bien disposés. Et c'est une distinction que je fais avec des films français qui pourraient se passer au Moyen-Âge où on a l'impression que tout est foutraque, alors que là-bas, dès qu'on voit un film qui se passe dans le Japon ancien, tout est bien ordonné, tout est, j'ai pas d'exemple finalement où il y a des choses très sales, dans tous les sens. Ça c'est assez admirable, tout est ordonné, et je dirais même que c'est aussi dans la mise en scène, parce qu'il y a souvent un premier plan, un deuxième plan. Je trouve que les cadrages sont assez admirables.
Ouais, il y a un très grand effort esthétique qui est fait sur les cadres, effectivement, dans le film. Mais effectivement, moi aussi, je l'ai trouvé rassurant, en fait. Et c'est aussi dans ce qu'incarne le personnage principal, le protagoniste Yann Aguida, qui vraiment ne déroge pas à ses grandes valeurs morales. Et il y a quelque chose d'assez beau à le suivre, malgré les obstacles qu'il doit affronter, et à tenir toujours ses valeurs à cœur, quoi.
Et puis ce qui est très étonnant, c'est qu'au départ, on a l'impression qu'il est très calme, il impressionne tout son entourage, et puis il y a un moment où on sent qu'il boue, qu'il est hors de lui, que va-t-il faire. Ça, c'est la tension, une des tensions en tout cas portée par ce film. Le joueur de Go, donc, qui est en salle depuis le 26 mars et qui est sur pas mal d'écrans finalement. Ça vous donnera l'occasion peut-être de vous donner envie de jouer au Go. Un condamné à mort lance une prédiction. Son psychiatre sera l'auteur de 3 meurtres. Nous parlions de Nefarious.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Oui. Tu aurais dû accepter mon offre, James.
Le jour de son exécution programmée, un tueur en série condamné à la chaise électrique doit subir une dernière évaluation psychiatrique pour valider l'application de la peine capitale. Mais le psychiatre qui intervient, remplaçant l'habituel qui est mystérieusement mort, découvre que l'homme qu'il doit jauger et qui a l'air à première vue d'un drogué affable, prétend être beaucoup plus que ce qu'il n'est. Alors en fait, il n'y a pas de meurtrier à proprement parler puisque l'homme affirme être possédé par un démon. Alors ce démon prend régulièrement le contrôle et un jeu de ping-pong verbal s'installe entre les 3 belligérants à 2 corps, pimenté par le fait que le condamné à mort prédit au psychiatre qu'avant la fin de la journée, il aura lui-même commis 3 meurtres.
L'exécution aura lieu à 23 heures précises. Et maintenant, il va concentrer toute son énergie sur un seul objectif. Vous convaincre qu'il est totalement cinglé. Et s'il y arrive, il ne pourrait plus être exécuté.
Nefarious, qui est en fait le nom du démon possesseur, est l'une des rares tentatives d'exporter un cinéma chrétien, typiquement américain, qui n'a d'habitude aucun rayonnement chez nous. D'ailleurs, les réalisateurs et scénaristes Carrie Salomon et Chuck Konzelman sont les rares à avoir eu une diffusion en France, puisqu'ils sont derrière le très controversé Unplanned, accusé d'exposer une vision polémique de l'avortement et du planning familial, et qui coche toutes les cases du Face-Based Movie, un film donc basé sur la foi. Alors avec Nefarious, il livre un thriller chrétien, une sorte de mélange ultra soft entre L'Exorciste et Le Silence des Agneaux. Alors ultra soft parce que en fait on reste en huis clos. La quasi-totalité du film se passant autour d'une table à discuter, mais il n'en est pas moins très douteux dans ses propos puisque l'absence de baptême, l'avortement ou encore l'euthanasie sont vus comme des péchés dignes de la pire des damnations qui vont couler nos héros. Alors rien de spectaculaire, mais quand même pas mal d'effroi dans cette vision du monde qui est tellement chiche qu'elle ne peut même pas être contrebalancée par un humour involontaire. C'est ça qui est un peu le plus triste. Le film voudrait marcher sur les traces de ces illustres modèles déjà cités, jusqu'à jouer la carte du « Hey, notre tournage était vraiment possédé avec prêtre pour exorciser le plateau à l'appui ». Malheureusement, le seul revenant que l'on peut apercevoir est le pauvre Sean Patrick Flannery, le talentueux jeune Indiana Jones de la brillante série du même nom des années 90, qui fait tout pour ressusciter une carrière à l'encéphalogramme complètement plat. Dommage aussi pour Solomon et Konzelman, qui avaient su être un peu marrants dans le temps, en signant en 2001 l'histoire de Earth vs. The Spider, un remake télévisé et modernisé d'un petit classique de la SF des années 50. C'est un peu ça qui m'a donné d'ailleurs envie de voir Nefarious, en me disant que ça pourrait être rigolo de voir un face-based movie horrifique écrit par ces deux amuseurs publics, mais en fait ça tombe quand même pas mal à l'eau.
Il me semble que les distributeurs sont les mêmes qui ont donc distribué et sorti en salle Vaincre ou Mourir, le film qui se passe au Puy du Fou, et Sound of Freedom. Voilà,
c'est, oui, oui,
pour la petite anecdote, c'est les mêmes. C'est une boîte un peu catho, un peu d'extrême droite, faut le dire, parce que c'est vrai.
Nefarious est en salle depuis le 26 mars.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Toi, tu auras 2 films, Manu.
Oui, le nouveau Mike Lee, Deux Sœurs, et Wet Monday.
Et puis toi, Guillaume, un film.
Je retourne au film d'animation avec Ozzy, La Voix de la Forêt.
Et nous aurons le temps de faire un blind test. À la semaine prochaine.
Si
Si je pouvais résumer l'histoire de mon père et de ma mère en 5 dates, la première serait en 1936, l'année du Front populaire, des congés payés. L'année où mon père aborda ma mère dans une salle de cinéma.
Ça ne vous donne pas envie de danser?
Non! Bon, ça suffit maintenant. Vous m'avez suivi dans le métro, sur les grands boulevards et maintenant ici.
Je pourrais vous suivre jusqu'au bout du monde.
Alors vous m'écoutez bien, je vais compter jusqu'à 5. Si à 5 vous n'êtes pas parti, je hurle. 1, 2, 3, 4, 5.
It's so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven. I'm in heaven. Maintenant, je me souviens plus des paroles, mais je suis heureux de vous avoir suivi, car vous êtes vraiment, vraiment très jolie.
This is Cinerama. 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 Cinerama.